Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est l'archevêque de Nouméa, Monsieur Calvé. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation alors que vos fonctions prennent fin à la tête du diocèse de Nouméa. C'est demain que sera installé votre successeur, Suscitino Sione Poe. Vous-même, Monsieur, vous avez été nommé évêque en 1979.
Oui, en juillet.
Archevêque de Nouméa en 1980.
En juillet aussi.
Une fonction que vous avez occupée pendant 44 ans. Votre démission n'a été acceptée qu'en janvier de cette année, janvier 2025,
oui.
Et vous venez de célébrer vos 81 ans. Qu'est-ce qui explique une telle longévité? Parce que c'est quand même plutôt exceptionnel.
Alors, c'est pas moi qui peux l'expliquer. J'ai été nommé jeune à une époque où il y avait besoin de quelqu'un qui soit au moins en bonne santé, parce qu'il en fallait. Et c'était la période juste de l'après-concile, donc une période qui n'était pas très facile et pour la succession de l'archevêque de Nouméa, qui d'abord, dans un premier temps, en 79, a demandé à Rome d'avoir un auxiliaire, parce que il avait été évêque de Bereina en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans une mission qui était difficile, et il sentait que sa santé déclinait, et donc il avait besoin de quelqu'un auprès de lui.
Mais alors tout de même, vous avez été nommé archevêque à seulement 35 ans. Vous étiez le plus jeune évêque de France à l'époque?
Alors mes neveux qui sont attentifs m'ont dit « mais tu es dans le livre des records, dans le Guinness ». Et effectivement, à l'époque, j'étais le plus jeune archevêque dans l'Église catholique.
Et c'était très peu de temps après votre ordination?
J'avais été donc ordonné évêque le 4 novembre 1979 et j'avais à peine 6 ans d'ordination.
Comment ça s'explique? L'Église avait vu chez vous des talents particuliers, exceptionnels, pour avoir une telle promotion, entre guillemets?
Peut-être que j'avais pas eu la possibilité d'y échapper.
Ensuite, 44 ans comme archevêque de Nouméa, là aussi c'est un record pratiquement.
Ah,
à
oui.
Nouméa, oui, en tout cas, mais dans les carrières épiscopales, c'est très long, 44 ans.
Oui, c'est pas fréquent, mais assurément, pour la durée d'un évêque en Nouvelle-Calédonie, que ce soit des vicaires apostoliques dans la première période, et donc j'étais le troisième archevêque de Nouméa. Mes prédécesseurs, Mgr Martin et Mgr Klein, donc sont restés moins longtemps. Hein.
Alors bon, on ne va pas résumer 44 ans évidemment, mais quand même, quels sont les temps forts, les moments les plus intenses que vous retenez de toute cette période comme archevêque de Nouméa?
Alors, il y a beaucoup d'époques qui sont variées. Il y a eu des grands moments sur le plan pastoral. Et il y a eu des programmes importants qui ont été faits en matière d'enseignement catholique. Et il y a eu la préparation, le déroulement du 150e anniversaire. Un moment extrêmement important qu'on avait décidé de mettre en valeur le 150e anniversaire de la première messe célébrée à Balade par les premiers missionnaires qui arrivaient, donc avec le minimum qui était possible pour des gens qui ont commencé l'évangélisation dans cet endroit, et qu'on a célébré 150 ans après, à la fête de Noël. C'était le jour même de la fête de Noël 1993, et nous avons pu célébré avec des invités. Les gens du Nord s'étaient rassemblés. Il y a eu une rencontre à Mahamat qui était assez extraordinaire, avec les coutumiers qui ont porté aussi une parole qui était forte, qui était reprise. Pour la petite histoire, on sait que ce qu'on a appelé le pardon de Balade sur la plage de Mahamat a été utilisé par ceux qui ont rédigé le préambule de la fameuse loi référendaire sur le statut de la Nouvelle-Calédonie.
De l'accord de Nouméa.
De l'accord de Nouméa.
Alors, la première messe 1843, 150 ans après le 150e, comme on l'a appelé, pourquoi est-ce que vous avez tenu à marquer cet événement? C'est un moment très important pour vous dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie?
Alors, c'était une manière de se rappeler quelles étaient les racines et la profondeur des racines. À ce moment-là, on a rétabli aussi des liens avec le diocèse de Clermont, puisque la première équipe de pères maristes étaient tous originaires, y compris l'évêque et les frères, du diocèse de Clermont. Et donc, ça est important. On ne voulait pas non plus que cette célébration, qui on appelait des invités de l'extérieur, on les mette au risque parce que c'est la saison des cyclones, entre Noël et Pâques en Nouvelle-Calédonie, particulièrement dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Et donc on a invité tout le monde pour une grande célébration qu'on a appelée le Super Téné. Et c'était la Pentecôte 1994, la Pentecôte suivante. Et là, nous avons eu la joie d'avoir un envoyé spécial du pape Jean-Paul II, c'était le cardinal Jean Margeau, l'évêque de l'île Maurice, et quelqu'un qui a parfaitement compris ce qu'on attendait de lui, ce qu'il fallait dire aux uns et aux autres, qui était la mentalité des îles, c'était aussi sa mentalité à lui, il a compris ça tout de suite, et il a été parfait, et on a pu faire une invitation. Pour le Super Téné, on avait évalué à peu près à 12 000 personnes qui étaient sur l'hippodrome de Téné. Donc pour la Calédonie, c'était très considérable. Et tout le monde a joué le jeu, a participé. Il y a eu un livre de photos fait par Baudemoulin, Moulin, par exemple, qui a marqué le souvenir de cet événement. Du point de vue pastoral, c'était un grand moment.
Alors, vous parlez de Téné. Ça a aussi été l'un des temps forts avec la création de ce pèlerinage de Téné. C'est 1987.
Alors c'était un peu avant, et ouais. Donc on a fait plusieurs ténés. Téné a grandi, et puis celui-là est devenu ce qu'on a appelé le Super Téné.
Et le pèlerinage lui-même, quand il a été créé, ça aussi c'est un temps fort. C'est s'il y avait une volonté de réconciliation des Calédoniens dans une période qui était encore très agitée.
Il y avait eu des épreuves difficiles, des affrontements, et donc il fallait arriver à faire une proposition à tout le monde. Qui puisse donc être une proposition qui rejoigne les racines en profondeur et spirituelle. Et donc tout le monde a compris et tout le monde y a participé.
Et après, il y a eu des pèlerinages de Téné tous les ans. C'est devenu un incontournable dans la vie de l'Église calédonienne.
Alors après, sauf quand il y a par exemple un Covid qui arrive en travers ou des histoires de ce genre. Mais en fait, ça a été aussi la découverte qu'il y avait des choses à faire pour les jeunes. Et que toute une génération de jeunes, particulièrement de jeunes océaniens, puisque c'est eux qui participaient le plus à ces pèlerinages, eh bien, ont bénéficié des gens qui se sont mis au service de ces rencontres de Téné.
Pourquoi justement les jeunes océaniens? On a l'impression qu'il y a une espèce de, pas de fracture, mais de séparation tout de même dans l'Église catholique aujourd'hui, où il y a plus d'océaniens, comme on dit, que d'européens. Vous le ressentez comme ça et vous l'expliquez comment?
Non, parce qu'il y a une attention qui est culturelle. Les sociétés traditionnelles de Calédonie insistent beaucoup sur la vie en communauté, sur la célébration. Et donc, c'est pas étonnant qu'on ait davantage de jeunes océaniens qui participent à Téné. Par contre, ce qui a toujours été fait, le comité de Téné y était attentif, c'est de faire savoir que la porte était toujours ouverte et que donc même si d'autres culturellement avaient d'autres traditions, d'autres moyens de se retrouver, eh bien la porte était toujours ouverte pour qu'ils puissent venir.
On parlait du 150-naire. Alors on rappelle souvent, en tout cas c'est un fait historique, la Nouvelle-Calédonie a été évangélisée avant d'être colonisée. Est-ce que ça a marqué profondément l'histoire de ce territoire?
Alors, c'est quelque chose qui était souvent pas connu. Et j'avais fait appel à un certain nombre d'historiens pour qu'il y ait des publications sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, de l'évangélisation. C'était d'abord le père Claude Rosier, qui est bien connu pour l'auteur des chants liturgiques, genre « Envoie tes messagers » ou des chants comme ça, et qui était aussi un très bon connaisseur de l'histoire du Pacifique de cette époque au XIXe siècle, et qui a fini par écrire, j'ai eu du mal à le convaincre, mais a fini par écrire un premier livre, La Nouvelle-Calédonie ancienne, puis L'Église sur le caillou. Il devait continuer, mais malheureusement, il est mort, le travail n'était pas complètement fini. Après, j'ai demandé au père Delbos, qui a été directeur de l'enseignement catholique, professeur de philo à Blaise Pascal, qui était également un historien et un philosophe qualifié, et qui nous a fait une histoire de l'Église catholique en Nouvelle-Calédonie. Je tenais beaucoup à cette publication parce que on racontait des tas de choses sur l'histoire. l'histoire de l'évangélisation en Nouvelle-Calédonie, ça devenait l'espace de projection des idéologies des uns et des autres. Rien ne vaut dans ce cas-là de faire le détour avec de véritables historiens qui savent ce que c'est qu'une chronologie bien établie. Et c'est pour ça que j'ai souvent insisté sur le fait que, effectivement, la rencontre entre la religion et la coutume s'est faite avant la rencontre entre la coutume et l'État en Nouvelle-Calédonie. Les protestants sont arrivés d'abord, particulièrement aux îles Loyauté. Et puis les catholiques sont arrivés ensuite, là où les protestants n'avaient pas pu s'installer. Et ils ont commencé leur travail d'accoutumance, d'évangélisation, et également travail au service de la population, c'est-à-dire enseignement, c'est-à-dire dispensaire, c'est-à-dire toutes sortes de choses de ce genre. Et le premier évêque, Monseigneur Douard, mon premier prédécesseur, eh bien, était déjà mort depuis plusieurs mois lorsque a eu lieu la prise de possession le 24 septembre 1853.
180 ans après, maintenant à peu près, comment se porte l'Église catholique en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'elle a encore... Enfin, quelle est son influence?
Ben, j'ai pas d'appareil de mesure en la matière, donc...
Vous êtes l'un des mieux placés pour le savoir, quand même.
Mais je m'aperçois que beaucoup me disent l'Église catholique est en perte de vitesse, est en perte d'influence. Autrefois, tel ou tel sociologue bien connu expliquait que l'Église catholique allait bientôt disparaître en Nouvelle-Calédonie. Bon, il s'avère que ça n'est pas exact. Que, en fait, l'Église catholique, eh bien, est vivante. Et elle est vivante à travers ceux qui sont des chrétiens. Elle n'a pas besoin d'avoir une influence particulière comme groupe inscrit dans le catalogue des organisations politiques, parce qu'en plus, elle a des membres qui sont quelquefois membres actifs dans plusieurs choix possibles. Et le problème, c'est pas qu'il y ait des choix, différents choix possibles. Le problème, c'est que dans tous ces choix, on essaye d'être conforme à l'Évangile. Ça, c'est une autre paire de manches.
Elle est présente également dans l'enseignement. Et donc là, on peut penser qu'elle peut avoir une influence très directe puisqu'elle forme des centaines de jeunes Calédoniens.
Alors, objectivement, eh bien, c'est un lieu d'implantation qui est important, un travail énorme qui a été fait. L'Église catholique, ça fait presque un scolarisé sur quatre dans l'enseignement. Et il y a, on ne cessera de le dire suffisamment, qu'il y a un travail énorme à faire vis-à-vis de la jeunesse. Alors, comme je l'ai dit ailleurs, la jeunesse qui réussit, c'est pas un problème. Le problème est déjà en voie de solution. Mais la jeunesse qui a du mal à réussir, ça, c'est un problème. Et il faut s'en occuper, et c'est urgent. Et si on s'en occupe pas, eh bien, on a droit à des catastrophes, des dérapages, et entre autres, celui qu'on a vu depuis bientôt un an.
On va y revenir, mais pour rester sur l'Église elle-même, est-ce qu'il y a une relève aujourd'hui dans l'Église catholique? Est-ce qu'il y a des jeunes qui se préparent à s'engager ou à servir l'Église ou qui se préparent au sacerdoce aujourd'hui?
Alors, il n'y en a pas assez. J'aimerais qu'il y en ait plus, mais il y en a. On a, par exemple, on a toujours quelques séminaristes que nous envoyons dans la mesure du possible à Fidji, au grand séminaire de Suva. Actuellement, nous en avons deux qui ont déjà pas mal avancé dans leurs études. Autrement dit, on n'a pas un grand nombre, mais on a un nombre qui reste, qui est significatif, et on a vu des ordinations, le père Ken, il n'y a pas tellement longtemps, le père Michel Toekidjo, qui a un parcours complètement différent, mais qui est aussi intéressant. Et donc, l'Église catholique, elle est vivante, et puis pas seulement par les prêtres, mais par les diacres.
Des diacres. C'est un peu une tendance nouvelle, ça,
C'est moi qui ai décidé d'appliquer cette possibilité qui a été ouverte par le Concile Vatican II au diocèse de Nouméa, de faire l'ordination de diacres qui sont permanents, des hommes mariés, des hommes qui sont engagés dans leur métier, dans leur vie professionnelle peut-être, mais qui puissent devenir diacres. Et donc actuellement, dans le diocèse, on a un peu plus de diacres que de prêtres.
Et c'est efficace, entre guillemets, ils peuvent apporter un service auprès de la population.
Alors, les gens qui ont l'occasion de les voir au travail, eh bien, comprennent qu'ils ont aussi les soucis de leur métier s'ils sont encore en activité, de leur famille, mais en même temps, ils savent que pastoralement, ils peuvent compter sur eux, et c'est bien. Mais également, il y a une autre chose, et ça, c'est une expérience qui est plus ancienne dans le diocèse, puisqu'elle date de l'origine, c'est l'existence des catéchistes. Et beaucoup, quand j'ai l'occasion de parler à des évêques en Europe, ils disent, ben vous, vous avez des catéchistes, vous avez de la chance. Parce que c'est la tradition de pas mal de diocèses en Océanie, pas tous, mais de certains diocèses d'Océanie, d'avoir des catéchistes, c'est-à-dire des gens qui sont le responsable spirituel de la communauté. Et qui, donc, en l'absence de présence d'un ministre ordonné, prêtre ou diacre, eh bien, sont en mesure de réunir la communauté pour une célébration de la parole, qui sont en mesure de préparer la célébration des sacrements, mais également sont en mesure de même célébrer les baptêmes si c'est une nécessité.
Alors, vous y faisiez allusion, il y a bientôt un an, maintenant, le 13 mai 2024, la Calédonie a connu un terrible épisode de violence, même si c'est un territoire violent, mais ça a été exacerbé. Vous avez condamné ces violences avec une formule qu'on a retenue. Vous avez déclaré que l'île la plus proche du paradis est devenue la plus proche de l'enfer. Un an plus tard, comment est-ce que vous expliquez, Monseigneur, cette violence destructrice qu'a connue la Calédonie?
Alors, cette violence qui s'est exercée sur toutes sortes de structures qui symbolisaient en fait une société organisée, hein. J'ai essayé d'analyser, essayé de comprendre, dans un premier temps, surtout quand c'est les églises qui ont été elles-mêmes attaquées.
Ça s'était jamais vu.
De comprendre que la volonté de nuire était une chose évidente. Ça, j'avais pas besoin qu'on m'explique deux fois. Ensuite, j'ai dit, mais pourquoi? J'ai eu aucune réponse de la part, probante de la part, de ceux ou des milieux qui pouvaient être à l'origine de pareilles choses. Et puis finalement, je me suis dit, mais peut-être que c'est précisément parce que les églises sont des endroits où tout le monde était bienvenu, où les gens pouvaient se rencontrer. C'est pour ça qu'elles ont été attaquées. Et c'est plus grave encore que je ne pensais. Ça veut dire que symboliquement, eh bien, c'était une manière d'empêcher une réconciliation. Et donc, je pense qu'on a à tenir compte de cela et à ne pas l'accepter. D'ailleurs, ça a été la réaction des paroissiens qui, eux-mêmes, eh bien, ont dit, mais c'est notre Église. C'est pas quelque chose qui est de l'extérieur, ça appartient pas à d'autres que nous. C'est notre Église, et donc, nous essayons de la garder, éventuellement jour et nuit, c'est ce qu'ils ont fait.
Et face à ce phénomène, sur un plan pratique déjà, l'Église va réagir comment? Il faut les reconstruire, ces églises qui ont été détruites, il faut protéger les autres?
Protéger. Alors, les gens, quelquefois, se sont aperçus que c'était soit de leurs propres enfants, ou soit des proches de leurs enfants qui avaient, poussé par les réseaux sociaux, poussé par différentes choses, tout d'un coup, sans réfléchir peut-être davantage, c'est-à-dire sans comprendre comment fonctionne la société. Je crois qu'on a vraiment un problème de compréhension de la société. Parce qu'on a vu de la même manière, des jeunes qui s'attaquaient aux dispensaires ou aux centres de dialyse qui servaient pour soigner leurs parents ou leurs oncles et tantes. Donc, il y a une incompréhension de la société. On peut le reprocher aux jeunes, mais on peut le reprocher aux adultes qui ne l'ont pas expliqué aux jeunes.
Et justement, comme archevêque de Nouméa, ces divisions, ces fractures qu'on constate aujourd'hui dans la société calédonienne, est-ce que vous ne les ressentez pas un peu comme un échec?
Mais c'est toujours la même chose, et c'est vrai aussi, les parents en ont l'expérience. Quand il y a des enfants qui font leur expérience et puis qui ne réussissent pas tout, ils ont tendance à le recevoir un peu comme leur échec. Mais bon, ce qui importe, c'est d'être là et de donner la main pour ne pas se contenter d'un échec, mais passer au-delà. Et donc, c'est ce qu'il faudra faire. Et il faudra le faire, et il ne faudra pas dire « ça n'a pas d'importance ». Non, ce qui a été fait a beaucoup d'importance, et grave. Et il ne faut pas faire croire que les jeunes peuvent être irresponsables et que ça peut être accepté comme tel. Ça, ce serait les mépriser. Au contraire, de leur faire comprendre, mais en même temps de leur dire « vous n'êtes pas réduits à ça ».
comment est-ce que vous voyez la suite? Vous avez connu 44 ans comme archevêque de Nouméa. Vous avez connu des périodes tendues. Vous étiez là en 84, vous étiez là en 88 au moment de la tragédie d'Ouvéa. Vous étiez là en mai 2024. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une réconciliation possible et comment et quel rôle peut jouer l'Église dans cette réconciliation des populations calédoniennes?
Alors, je dirais presque qu'il n'y a pas d'autre voie et que c'est une nécessité, mais en même temps, on a la possibilité. Il y a, même si le contexte a évolué et a changé, eh bien, il y a des valeurs qui sont un terreau commun et bon, il ne faut pas hésiter à y puiser. Terre de parole, terre de partage, ce n'est pas venu par hasard. Eh bien, ça, il faut pouvoir donc maintenant à nouveau en tirer parti et faire quelque chose qui est digne de tout le monde.
Et ça peut s'organiser comment? Il y avait une mission du dialogue au moment de 88. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut organiser les choses d'une manière ou d'une autre pour essayer justement de remettre la Calédonie dans le droit chemin? Est-ce que les forces spirituelles, comme on les appelle, n'ont pas justement un rôle essentiel à ce moment-là?
Les politiques ont choisi à une époque de faire appel de telle et telle façon. Et on a répondu présent. Le message que j'ai fait passer aux forces politiques actuellement responsables, c'est que pour ce qui est de l'Église catholique, on est toujours présent et que on n'a pas à revendiquer d'avoir tel ou tel rôle et tout ça, mais que si on fait appel à l'Église catholique, eh bien, on tâchera de rendre le service que l'on peut et avec les forces et les valeurs que l'on a.
Et pour l'instant, vous n'avez pas été sollicité directement par les différents responsables politiques?
Si, j'ai rencontré. Bon, on publie pas toutes les rencontres que l'on a, mais on dit un certain nombre de choses, on essaye d'apporter des éléments au débat, et on essaye de faire en sorte, mais là c'est bien difficile, que le service de la jeunesse, particulièrement à travers l'enseignement, puisse continuer, puisqu'on a des problèmes très pratiques sur l'enseignement catholique avec la fonction d'accueil, qui se retrouve en grande difficulté, et bon, si tout d'un coup, on est obligé, par faute de moyens ayant absorbé le fonds de roulement, ça commence à grincer, eh bien, toute une partie de la jeunesse n'aura même pas un repas par jour qui a été assuré par les internats ou par les demi-pensions. Bon, il faut y penser à des choses comme ça.
Il y a des pistes de solutions, d'ailleurs, pour ce financement de l'enseignement catholique en Calédonie?
Comment, au moins, la direction de l'enseignement catholique a fait savoir. Mais on sait que les communes sont en difficulté, on sait que les provinces sont en difficulté et que le pays, le territoire lui-même est en difficulté. Donc, on a réussi au moins une chose déjà, c'est de savoir à qui il fallait s'adresser pour la fonction accueil en primaire, ce sont les communes, en collège, ce sont les provinces, en lycée, c'est le pays, mais il faut que ceux-ci aient un minimum de ressources qui soient disponibles. Ils ne peuvent pas distribuer l'argent qu'ils n'ont pas. Mais on ne peut pas non plus dire que l'enseignement catholique, avec son fonds de roulement, va rester le banquier qui prête de l'argent à ces instances-là. C'est en fait le cas actuellement.
Monseigneur, les églises protestantes, elles sont très engagées dans le combat politique en Nouvelle-Calédonie. Ça n'a jamais été le cas de l'Église catholique. C'est volontaire, c'est un choix de votre part. Vous pensez qu'il faut séparer les choses?
Ça correspond à des traditions qui sont très différentes. Dans les églises protestantes, eh bien, c'est l'opinion de l'ensemble ou majoritaire des membres de l'Église qui sert à exprimer l'opinion de l'Église. Dans l'Église catholique, c'est pas tout à fait ça. Il y a une référence et cette référence doit être authentifiée. Autrement dit, il y a des éléments qui sont objectifs. Et alors, une des choses qu'on a essayé de faire, et c'était de répandre davantage ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, en particulier dans un volume qui a été fait à l'époque. Et, c'était, je m'en étais occupé un peu, et en France et à Rome, par la rédaction du compendium de la doctrine sociale de l'Église. Et donc, c'est quelque chose que avec le père Roch, par exemple, on a souvent rajouté ça avec les coutumes que l'on donnait, quand on avait l'occasion de saluer tel ou tel responsable. Je sais qu'un certain nombre l'ont lu et y ont puisé, c'est une bonne chose.
Et les fidèles catholiques comprennent le fait qu'il n'y ait pas cet engagement direct dans la vie politique, pour faire simple.
Mais il y a des rôles dans la société pour chaque chose. Que donc des partis politiques s'organisent en groupes de pression pour ceci ou cela, le rôle d'une église telle qu'il est compris dans l'Église catholique, c'est pas d'être un groupe de pression.
Alors, Monseigneur, vous arrivez à la fin de vos fonctions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre successeur? On le connaît un petit peu, il a servi déjà en Nouvelle-Calédonie, mais comment vous le voyez, vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui?
Alors, c'est un père mariste, donc de la même congrégation que moi.
Ça reste dans la tradition.
Voilà. Qu'il a servi en Océanie, un peu à Tonga, autant que je me souvienne, mais surtout en Nouvelle-Calédonie, un peu sur la côte Est, un peu dans le Nord, dans le Sud, à la Conception. Autrement dit, il connaît et il est connu en Nouvelle-Calédonie. C'est moi-même qui lui ai donné la consécration épiscopale, il y a 6 ans à peu près, à Wallis. Et donc, il a une expérience épiscopale, et le diocèse de Wallis et Futuna, même s'il n'est pas très grand, il n'est pas très simple. Autrement dit, il a une réelle expérience d'une situation pastorale où il faut avoir le calme, et je pense qu'il a ces qualités-là. Et puis, comme je dis, lui aussi sait qu'il faut être ancré sur l'Évangile.
Quelles devraient être ses priorités, même si je ne vais pas vous dire que vous ne le feriez pas de lui donner des conseils, mais selon vous, quand il arrive dans la situation que connaît Calédonie aujourd'hui, à quoi il doit se consacrer d'abord?
Alors, il faut qu'il arrive à rencontrer le plus de monde possible pour montrer que sa mission, eh bien, c'est une mission qui s'étend à l'ensemble du diocèse et les gens qui sont à l'intérieur de l'Église, mais aussi ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Ça, c'est une première chose. Le souci, comme je le disais, de la jeunesse. On a à faire extrêmement attention à cette jeunesse qui nous est confiée, aux besoins de laquelle on a répondu pour une part, mais pas toutes. Et donc ça, il va falloir continuer avec l'enseignement catholique, en dehors aussi de l'enseignement catholique, eh bien s'intéresser de près à ce qui peut être fait pour la jeunesse. Et donc il a un âge qui est déjà meilleur que le mien pour ce faire.
Il est mariste, il est aussi d'origine wallisienne. Oui. C'est un avantage ou c'est un inconvénient, selon vous, dans le contexte actuel?
C'est un fait.
Mais au-delà?
Non, je pense que chacun peut jouer les atouts et les cartes qu'il a. Et on n'a jamais toutes les cartes dans son jeu. Autrement dit, il va faire avec cette connaissance. Mais il y a, par exemple, un fond de compréhension des coutumes océaniennes. Pour lui, c'est pas la peine de lui expliquer. Il a une connaissance, même linguistique et culturelle, mais qui est extrêmement précieuse. Et il a été formé en anglais, donc pour le plan régional, il est mieux armé que moi, parce que mon anglais était pour le moins rustique, et donc il va faire ça pour le mieux.
Comment va se passer la cérémonie de demain? Vous en attendez? C'est un grand moment, c'est un moment important pour l'Église?
C'est un moment symbolique qui est important. Ce n'est pas une consécration épiscopale, puisqu'il est déjà évêque, mais il va être reçu dans la cathédrale de son diocèse. Et donc, l'élément qui est un peu la clé de l'affaire, c'est ce qu'on appelle la bulle de nomination. C'est-à-dire un document qui sera montré, si vous le regardez en détail, c'est un document en latin, et qui est signé du pape François. Quelquefois, il est signé du secrétaire d'État. Là, il est signé du pape François, j'ai vérifié. Et la signature du pape François est de plus en plus petite. C'était juste avant qu'il ne soit hospitalisé. C'est exactement le contraire de la signature de Monsieur Tron. Et donc, ce texte a été traduit, la traduction donc a été soigneusement regardée et vérifiée. J'en suis pas à m'occuper de la première traduction de bulle de nomination dans le Pacifique, puisque je m'en étais occupé pour lui à Wallis et pour Port Vila, pour Monseigneur Jean Bosco. Et donc, celui qui est chargé de nous transmettre cette bulle de nomination, c'est le nonce, le délégué apostolique qui réside en Nouvelle-Zélande et qui est enfin à son poste, mais qui a été nommé parce qu'on a eu des problèmes avec le nonce. Le nonce a eu un problème de santé et qui a eu un AVC. Et donc, pendant un certain temps, on n'avait plus de nonce. On avait un secrétaire qui était chargé d'affaires, qui sera là aussi d'ailleurs. qui a même avait été bloqué en Calédonie au moment du 13 mai.
Oui.
Il devait repartir à ce moment-là, il est resté plusieurs semaines bloqué. Et on a pu l'exfiltrer sur un avion d'Air New Zealand, directement de Magenta, avec les touristes. Donc, le nonce, délégué apostolique pour la Nouvelle-Calédonie, puisque nous ne dépendons pas du nonce à Paris, mais nous dépendons d'un délégué apostolique qui énonce pour la Nouvelle-Zélande, pour les pays et les gouvernements de la région, mais qui pour nous a le titre de délégué apostolique, ce qui, du point de vue ecclésiastique, a exactement les mêmes facultés. Et donc c'est lui qui va transmettre la traduction, alors où il le lit lui-même, ou s'il trouve que son français est un peu hésitant, il le fait lire par quelqu'un, ce qui est probable.
On verra ça demain. En attendant, Monseigneur, vous-même, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Comment vous allez occuper vos prochaines années, si ce n'est pas indiscret?
Comme j'ai dit à plusieurs personnes, vous savez, maintenant, alors certains ont trouvé que 81, ça faisait un peu beaucoup. Alors ils ont dit, les chiffres des gâteaux d'anniversaire, ils vont me le changer, ça fait 18, ça fait mieux. Bon, j'ai mon avenir qui est derrière moi maintenant, c'est autre chose. Mais non, je vais d'abord être à la disposition de Monseigneur Susitino pour qu'il puisse commencer dans de bonnes conditions. Et donc, c'est ça qui est la première nécessité. Ensuite, je trouverai à m'occuper, il n'y a pas de souci. Déjà, un certain nombre de propositions qui m'ont été faites, mais d'ailleurs, que je refuserai parce que je ne suis plus non plus la solidité pour faire tant de voyages et tout ça.
À la fin de ce mandat épiscopal, quel est le message que vous voulez transmettre aux Calédoniens auprès desquels vous avez été pendant toutes ces années?
Moi, que j'ai été heureux d'être à leur service et que maintenant, d'autres façons, je continuerai à servir tant que je pourrai.
Vous resterez en Nouvelle-Calédonie?
C'est probable, mais j'ai eu même des propositions à l'extérieur aussi. Donc, je vais voir. Ça dépend surtout de ce qui sera nécessaire et utile à mon successeur.
La fin de ce magazine Transparence. Merci, Monseigneur, d'avoir accepté votre invitation.
Merci de votre patience.